9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur, sur RMC, RMC Story. On est à la radio, on est à la télé. La première heure des GG vient de passer en ce 1er mai. Si vous êtes réveillé un peu tard, et on peut le comprendre, tranquille, bien vous avez la première heure à disposition sur les podcasts, sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, Joël Dagosséry, coach de vie, Stéphane Manigold, restaurateur, sont avec nous. On a surtout aussi, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, deux supporters du PSG. Et c'est vrai que, grâce à Stéphane, Olivier et moi, nous retrouvons de temps en temps ensemble dans les tribunes du parc pour voir évoluer le PSG. Et alors, ce soir, on a... Là, ils ont le palpitant qui commence à battre.
Ça serait bizarre, là.
Stéphane et Olivier, parce que ce soir, c'est Dortmund-PSG, c'est la demi-finale. Allez de la Ligue des Champions. Hier, c'était match nul entre le Real et le Bayern.
Très beau match.
Alors, prono, Olivier, ce soir.
Match alors, allé. Moi, je pense qu'il faut à tout prix gagner à Dortmund. Et je pense que c'est ce soir que se joue cette qualification pour la finale. Et donc, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner ce match 2-0.
Ah oui, t'es optimiste.
Comment t'as dit ?
2-0.
Écoute, moi, je pense que le score final sera de 1-0 pour, j'espère, pour Paris. Mais le score final sera 1-0.
Ah, tu ne mouilles pas plus.
Bah, je souhaite que ce soit Paris. Bah, ça va être un match serré.
Je fais un prono,
il va être cadenassé,
2-0 pour Paris.
Moi, je pense que ça. Bah, 1-0 pour Paris. Allez.
Joël, même, est-ce que tu as un petit prono ?
2-1 pour Dortmund.
Voilà.
Ouais, de toute façon, Joël, explique-nous pourquoi tu aimes Dortmund. Tu sais pas ça, Alain ?
Ich liebe dich.
Non, mais il y a une raison particulière.
Ah bon ?
Mais oui, dis-le.
Ich liebe dich. Sébastien Allaire. Simplement.
Parce qu'il y a Allaire. Et elle est amoureuse du joueur Allaire.
Il nous l'avait dit la dernière fois.
Mais ton homme, il est allemand.
Il est allemand, oui, aussi.
Bah, c'est pour ça que je disais.
Mais il est Bayern, normalement. Mais bon, ce soir, il va supporter Dortmund.
Joël n'aime que les Allemands.
Vous avez même pas vu la petite vacherie que Lou Gerbier nous a fait, mais involontaire. C'est que le ticket de caisse qui était utilisé pour parler des pourboires, oui, c'était un ticket en allemand. Ah, Mineralwasser.
Ah, c'est pour Joël.
Alors, un petit prono quand même, Antoine, même si...
Non, mais je ne vais pas me risquer, j'y connais rien au foot.
Bah justement, l'innocence incarnée.
Allez, je reste chauvin, donc c'est Paris qui va gagner. Ce sera tout juste, ce sera 1-0 et le but est vers la fin.
Mais c'est une belle journée, c'est une belle semaine pour le foot français. Il y a Paris ce soir, il y a Marseille demain.
Ah, là, c'est intéressant.
Donc on espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons deux clubs prêts à se qualifier pour une finale de Coupe d'Europe.
Puisque tu parles de Marseille, n'oubliez pas, les grandes gueules seront à Marseille mercredi prochain.
Tout à fait.
Pour l'arrivée de la flamme, nous serons en direct du MUCEM. On vous donnera tous les détails.
Alors là, on ne pourra pas louper le Bellem. Parce qu'il paraît qu'au MUCEM, tu vois, hop, l'arrivée du Bellem. Bien placé.
Bon, trop allez
bien.
Les amis, maintenant il est temps que la France appelle les grandes gueules au 32-16 parce qu'on va parler des radars automatiques.
RMC, les grandes gueules.
Les radars rapportent gros 2 milliards d'euros collectés sur l'année 2023. Écoutez ce spécialiste justement de l'automobile, de la route, des radars, nous expliquer où va l'argent.
Une petite moitié va vers des mesures pour améliorer la sécurité routière. Il y a un tiers de ces recettes qui va plutôt vers l'investissement dans de nouvelles infrastructures de transport en France. Et puis ce qui reste, c'est consacré à destination des collectivités locales pour abonder leur budget.
Voilà, ça c'est où va l'argent. En attendant, ça collecte de plus en plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de radars.
Là c'est un record. On nous dit que la France est endettée, qu'il y a un déficit record. Les radars n'ont jamais rapporté autant d'argent. 2 milliards d'euros l'année dernière, c'est une hausse de 7% sur un an, ce sont des chiffres que donne la Cour des comptes. Alors si ce chiffre est en hausse, c'est pas parce que les Français roulent moins bien, c'est parce qu'il y a plus de radars sur la route.
Ouais,
donc ils se font plus contrôler. Il y a plus de 4660 radars en France. À la fin de l'année 2023, il y en a déjà peut-être plus déjà au moment où on parle, c'est quand même 130 de plus qu'en 2022. On en a rajouté 130. Donc on a une passion radar, les autorités, la passion radar, des radars qui fonctionnent de mieux en mieux, il y a des radars tourelles, il y a tous les radars de toutes sortes. D'ailleurs maintenant il y a beaucoup de radars qui ne sont pas signalés, alors que l'idée c'était de signaler le radar pour ne pas vous piéger. C'est-à-dire on vous signale le radar maintenant, à vous jouer, à ralentir, si vous êtes con, tant pis, vous êtes... Là maintenant c'est souvent des radars qui ne sont pas signalés, donc ça c'est le jackpot. Alors toutes ces recettes, nous dit-on, là aussi, sont utilisées d'abord pour améliorer l'état des routes.
Ah c'est ça.
Et au même moment, on apprend que les routes nationales n'ont jamais jamais été aussi mal entretenu, que les autoroutes qui appartiennent à l'État sont en piteux état. Pour preuve, ce qui se passe sur l'autoroute A13 entre Vaucresson et Paris. Donc là, il y a un loup. C'est-à-dire qu'est-ce que ces 2 milliards d'euros sont vraiment affectés à l'amélioration de nos routes? Si ce n'est pas le cas, à quoi ça sert?
Alors Joël, parce que je voyais commenter tout ce que disait Olivier.
Non mais je comprends pas comment cette augmentation est inversement proportionnelle à la diminution de la sécurité oui. des routes. Je comprends pas pourquoi on nous annonce que depuis des années, en fait, la France qui était première sur l'entretien des routes est passée, je sais plus combien.
On a baissé dans les classements.
Voilà, on a perdu mais plusieurs places. C'est même pas, on est passé deuxième, ouais. C'est huitième ou je sais plus. Et comment on nous annonce que de l'autre côté, on nous prend 2 milliards. Et ça rejoint, là c'est les routes, mais ça rejoint tout le système français qui est que plus on paye, moins on est servi. Et je comprends pas pourquoi plus je paye et moins je suis servi. Et ça pour moi c'est un scandale. Donc bien sûr que les radars ils sont utiles. On n'a pas à rouler vite. J'ai même envie de dire, si on a pris 2 milliards, c'est que vous roulez vite. Vous n'avez qu'à moins rouler et on nous prendra moins. Mais quand même, si t'as pris 2 milliards et que les routes, elles sont dégueux, si tu me prends autant d'impôts, que les hôpitaux sont dégueux, que l'éducation nationale, c'est dégueu. Enfin, il y a un moment, je veux dire, on paye pourquoi dans ce pays? Pourquoi? Ils nous volent de l'argent. Moi, je dis, c'est du vol.
C'est du vol.
Non, c'est plus de la cotisation, c'est plus de la contribution. Ça commence pour moi, je le ressens comme du vol. Je l'avais dit à Bruno Le Maire, je le ressens comme du vol.
Stéphane.
Bah, tout est dit. Non, mais c'est vrai que, juste pour l'autoroute A13, c'est pas forcément l'entretien des routes qui a provoquer l'effondrement. A priori, il y aurait un sujet d'un parking,
un chantier effectivement à côté,
souterrain.
Après, ce tronçon tout routier, il est très vieux, hein, il date des années 30.
Oui, bien sûr.
Donc, après, bien entretenu. Après, la question est posée.
La question qu'on peut se poser dans ce cas-là, s'il y a des péages en France, à quoi servent l'argent de ces péages si ce n'est entretenir les autoroutes?
Bah, les autoroutes sont très bien entretenues lorsqu'elles sont privées. Pardon, mais moi, je ne sais pas si tu prends souvent la route, mais je trouve plutôt qu'on a un très bon réseau autoroutier, très bien entretenu. Bah, c'est sûr que il y a de l'argent, c'est l'argent des péages. Mais dès que tu quittes ce réseau payé par le péage, notamment lorsque tu arrives vers Paris, où tout d'un coup ça devient des autoroutes gérées par l'État, comme par hasard, il y a des nids de poules.
Si je prends le côté suisse, juste pour parler 2 secondes des péages, côté suisse, tu mets une vignette et t'as pas de péage en fait. Et les autoroutes. Ouais, mais c'est beaucoup plus facile. T'emmerdes pas les gens à des barrières, etc.
Mais il faut bien l'argent, ça coûte cher.
Donc c'est l'argent, tu le récupères. Mais là, on a des infrastructures qui coûtent cher pour rien. Enfin,
mais les 2 milliards d'euros, est-ce que sont-ils vraiment utilisés, ces 2 milliards, pour améliorer nos routes?
Sur les radars, là où politiquement ils sont très forts, c'est que d'un côté ils vont t'expliquer que jusqu'à une certaine limitation au-delà d'un certain vitesse, tes points seront plus enlevés. Donc là, tous les Français disent super, enfin, on m'enlèvera plus mon point. Mais par contre, ton amende, tu vas la payer. Et pour preuve, il y en a pour 2 milliards. Donc c'est quand même assez colossal. Et c'est vrai que quand j'écoute les explications tout à l'heure de l'interview que vous avez passée sur l'usage de ces fonds, quand tu dis « Oh, une petite moitié par la prévention », tu sens bien timide, une petite moitié de quoi? De la totalité? Du résultat? Tu sens timide sur le sujet. Donc
Il y a une partie qui va aussi aux collectivités locales pour abonder leur budget. Donc on remplit des caisses. Quoi.
Les dépenser.
Attends. Petite question, parce qu'il y en a un ce matin qui est venu de Dunkerque jusqu'à Paris en voiture.
En voiture, exactement.
C'est Monsieur Diers.
Un très beau départ à 4h45, petit soleil sur Dunkerque, enfin départ au soleil. Oui. Et j'ai descendu l'autoroute A1 et j'ai vu le soleil se lever.
T'as vu des radars? Alors,
j'ai vu des radars, mais moi, je ne roule plus vite.
T'as changé de comportement.
Là, je me cale à 115 sur l'autoroute.
Ah, carrément.
Je suis parti bientôt, j'avais 115. Le temps. Ma voiture est un peu vieille.
Dans l'oreillette, on est en train de me dire, il fait chier tout le monde en ce cas-là. À 115.
Par contre, je roule bien sur la voie de gauche. De droite, pardon.
Ah, bien de gauche, donc tu fais bien chier tout le monde.
T'emmerdes bien tout le monde, il a raison, Marshall.
Non,
rouler à gauche, ça nous étonnait aussi.
Non, effectivement. Mais sur le sujet des radars, vraiment, moi, tant que ça fonctionnait pour la sécurité routière.
Oui.
J'étais assez d'accord. Sauf que là, les derniers chiffres, vous avez vu, sur le dernier mois plein, là, le mois de mars 2024, 204 décès sur la route contre 194 en mars 2023. On est à plus 31%. Donc, on n'a même plus d'effet sur la sécurité routière.
Le nombre de morts ne baisse pas.
J'ai travaillé 20 ans dans l'automobile, j'avais des véhicules allemands.
Je te compare pas, il y a 30 ans.
Surpuissants. Franchement, j'étais à des vitesses complètement dingues sur autoroute. Ouais, je faisais des Mulhouse-Paris en 3h45.
Le nombre de morts remonte. Mais on met, plus on met le radar, plus le nombre de morts remonte.
Pourquoi il n'y a plus d'effet? Pourquoi il n'y a plus d'effet? C'est ça qui m'interroge.
L'idée des radars.
Non, les morts, ils ont baissé sur la route. Le taux de mortalité a baissé.
Non, mais là, il remonte.
Alors
qu'on n'a jamais eu autant de radars.
Il remonte de manière structurelle.
Parce que je pense.
C'est-à-dire que c'est pas juste
voilà, c'est structurellement. Est-ce que la réponse, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre raison que la vitesse?
Alors, le fait que. Moi, j'en souviens quand on partait.
Et les routes, peut-être.
Attends, Antoine, finis son raisonnement. Non, vas-y.
Voilà. Est-ce que. Il y a une part de la réponse sur les dégradations d'entretien d'infrastructures qui amènent des accidents.
Ça crée des accidents.
Donc, moi, si l'intégralité des sommes perçues par les radars servait à l'entretien des routes, à la limite, intellectuellement, ça pourrait me satisfaire. Et puis surtout, moi je pense qu'en réalité, le problème n'est plus la vitesse. Le problème, c'est la façon dont les gens conduisent. On a coupé les grands excès de vitesse, etc., qui n'étaient peut-être pas dangereux. Parce que, pardon, moi je suis un peu libéral, une réflexion à l'allemande, une route toute droite, 2h du matin, il n'y a personne. Moi, je peux faire du 150, du 160, du 180 si j'ai une bonne voiture. Moi, ça me choque pas. En revanche, il y a des gens qui roulent n'importe comment, en ville, etc. Donc, les radars ne sont même pas une solution pour la sécurité.
Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'on a perdu, en fait, cette capacité à rouler. Je me souviens, effectivement, quand j'étais automobile, on partait en formation en Allemagne, tester les nouveaux véhicules, surtout sur des grosses motorisations, des grosses cylindrées. Et les pilotes formateurs nous disaient systématiquement, attention, vous les Français, vous avez des limitations de vitesse. En Allemagne, sur certaines tronçons d'autoroute, c'est illimité, vous pouvez bombarder à 20, 30. Mais vu que vous n'avez plus l'habitude de rouler à ce niveau de vitesse, et qu'en fait, vous êtes calé régulateur et puis vous somnolez presque au volant, faites attention, vos réflexes ne sont pas les mêmes. Et effectivement, en France, quand on a tous comme des moutons, entre guillemets, en randonnions, un peu comme dans le train, sauf qu'on n'est pas dans le train, on roule tous à la même vitesse l'un derrière l'autre, c'est là où la tension baisse aussi.
Joël, et puis on va écouter Edouard au 32-16.
Ce qui me fait dire que c'est pas fait réellement pour la sécurité routière, c'est qu'ils nous font des radars sauvages.
Ah oui.
Donc un radar, c'était quoi l'intérêt de prévenir? C'est que tu baisses ta vitesse. Voilà. C'est pas seulement qu'on voulait pas te piéger, c'est que ça t'incitait à baisser la vitesse. Là, quand c'est caché, tu continues. Donc c'est juste en fait pour te piéger. Là, c'est vraiment un piège. Du coup, c'est pour te prendre de l'argent. Sinon, ils te préviendraient pour que tu baisses de vitesse.
On va dire, t'as qu'à rester à la limitation de vitesse.
Alors, j'ai une réponse aussi à ça.
Tu ne seras pas
contrôlé. On a aussi créé, la pagaille des limitations de vitesse sur la route, puisque vous vous souvenez, Édouard Philippe avait dit, c'est 80 désormais sur les nationales et départementales. Il y a eu une rébellion de certains départements et on a donc laissé la liberté aux départements. Donc il y a dans des départements où c'est de nouveau 90. Mais c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que par exemple, il y a des départements où le président du conseil départemental a décidé de remettre le 90, sauf que sur les routes nationales, ça peut rester à 80. Donc tu es sur une départementale, t'as le droit d'aller à 90. Ça m'est arrivé récemment. T'arrives sur la nationale, c'est un panneau 80. En général, nationale, elle est plus sûre, elle est plus entretenue, parfois c'est même des quatre voies. Donc déjà, c'est incompréhensible en matière dans le message que tu veux envoyer en termes de limitation de vitesse et de sécurité. Et puis en plus, c'est piégeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais plus. Et donc il suffit que tu foutes un radar là et tu te fais avoir. Et c'est la complexité à la française. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bon, le 80, c'est une connerie, et d'ailleurs, Édouard Philippe, il a mis quand même les gilets jaunes dans la rue à cause de ça, en partie. Donc revenons au 90, on a fait un système mixte, ce qui fait que c'est vraiment un casse-tête dans certains départements pour savoir si c'est 80.
Sans véhicule,
sur l'autoroute, GPS, c'est compliqué.
Et l'autoroute aussi, bien sûr.
Alors, justement, dans un instant, Edouard avec nous, parce qu'il est gérant d'auto-école, il est du côté de la Côte d'Or, il a écouté les GG, il nous dira ce qu'il en pense. Donc, record de recettes pour les radars automatiques, 2 milliards d'euros pour notre bien, parce qu'on en installe de plus en plus. Bah, venez réagir au 32-16 avec les GG qui sont là en ce 1er mai.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on discute, on débat, là on parle du record de recettes pour les radars automatiques. Pourquoi? Parce qu'on en a installé de plus en plus, alors ça fait rentrer de l'argent, mais est-ce que ça sert véritablement la sécurité routière? C'est Edouard qui va en parler avec nous avant d'écouter Christine qui est chauffeur routier. Bonjour Edouard.
Oui, bonjour Alain.
Gérant d'auto-école en Côte d'Or. Alors, comment avez-vous réagi en entendant ce chiffre ce matin?
Pas vraiment étonné. Donc, pas de surprise. Il y a quelques instants, Olivier a déjà soulevé plusieurs de soucis. ouais, avec ces changements de signalisation en fait en permanence entre le 80 et le 90 km/h. Donc je suppose qu'il peut faire référence déjà du passage de Lyon à la Côte d'Or, vu que je sais qu'il vient dans, dans mon secteur géographique.
Ouais, j'ai fait le week-end dernier l'expérience et je me faisais la réflexion en disant mais il faut vraiment être très vigilant parce qu'à un moment donné on ne sait plus quelle est la limitation de vitesse.
Oui, puis ça, puis vous pouvez le mettre sur l'autoroute aussi parce qu'en si on passe de 130, 110, 90, 70, on est avec les autoroutes urbaines, pas urbaines, il y a tout un ensemble et puis là où en fait où les radars sont le plus présents. Et je vois dans le Nord-Côte d'Or, nous, on a installé ce qu'on appelle des plateformes radar, où vous avez un radar qui est mis sur à peu près une cinquantaine de kilomètres, mais ils ont mis des plateformes bétonnées et ils le déplacent d'endroit en endroit. Donc, ça modifie totalement, on va dire, le chose. Et puis, si on n'est pas du tout attentif à la limitation marquée 90 ou 80, bon courage, quoi.
Mais après, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que gestionnaire, gérant d'auto-école, quand vous donnez vos cours, justement, à vos élèves, comment vous leur parlez des radars automatiques, de la limitation de vitesse, pour leur faire comprendre que c'est pas toujours placé au bon endroit, que c'est pas toujours justifié, mais qu'ils doivent s'en... Comment vous y prenez, Edouard?
Il faut avoir une culture assez simple, hein, c'est de se dire qu'il y a un chiffre, il faut respecter quoi déjà au départ. Donc quand on parle de ça, j'entendais Antoine dire ça tout à l'heure qui disait des 150 km/h où il y a personne à 2h le matin. Bon ben moi je veux bien mais on peut
pas en l'état actuel de la législation, mais pour moi ça me semble être une piste de réflexion.
Oui, une piste de réflexion en fait. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que on tape toujours plus fort à 150 qu'à 130 km/h. Donc vouloir essayer d'augmenter la limitation de vitesse, c'est pas vraiment une bonne piste de réflexion.
Oui, mais vous savez qu'il y a la pratique. Ensuite, quand on a eu son permis, c'est-à-dire quand on est avec vous, gérant d'auto-école, on se plie aux règles, et puis ensuite, il y a simplement la pratique. Et là, on se retrouve confronté à l'illogisme, parfois, des limitations de vitesse, Edouard.
Je vois, ne serait-ce que dans ma ville, hein, il y a déjà des erreurs de signalisation aussi, tout ça. Et donc ça, il faut arriver à comprendre déjà certaines règles du code, mais c'est surtout aussi, à un moment ou un autre, c'est qu'il y a toujours des basiques, hein, c'est-à-dire qu'en ville, c'est 50. Quand vous rentrez dans une zone, déjà, à un moment ou un autre où il y a plus de circulation, vous êtes en centre-ville, rouler à 50 dans des endroits compliqués.
Exactement.
Donc, déjà, il faut peut-être déjà penser un peu moins chiffre, on va dire, déjà, et un peu plus adapter son allure et avoir un comportement. Parce que si vous voulez rajouter, en fait, en particulier, déjà, dans le cocktail qui fait mal sur les sanctions aujourd'hui, c'est parce que aussi, il y a des gens qui ont un mauvais comportement, il y a un problème de signalisation, il y a un problème qui est hyper large, et puis il y a aussi un problème éducatif aussi, parce que si vous avez des personnes en particulier qui sont jeunes et qui arrivent pour passer leur permis de conduire, ils ont vu leurs parents rouler à 180 km/h toute leur vie, comment vous voulez que je leur explique, on va dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. Ils ont vu leurs parents faire
ça. Bien sûr.
C'est du copier-coller. Donc c'est et après moi je fais, on va dire, ce que je peux pour les convaincre du mieux que je peux.
Edouard, pour m'expliquer un tout petit peu par rapport à mes propos de tout à l'heure, c'est-à-dire que
vous êtes expliquer Antoine. Hein.
Comment?
Là tu dis pour m'expliquer un peu, vu que vous êtes que tous les deux, qu'on n'a pas d'auditeur et qu'on n'est pas là.
Un peu d'humour de se dire.
Mais Edouard, c'est-à-dire que moi je maintiens que rouler à 150 ou à 180 la nuit sur autoroute, c'est moins dangereux que celui qui roule à 50 en ville sans rien regarder. Et c'est-à-dire que mille fois, je me suis dit en ville, le bonhomme là, moi je circule beaucoup à vélo à Dunkerque, et l'automobiliste se place mal, me frôle, etc. Mais au pur plan de la réglementation, il va pas être chopé par un radar parce qu'il est en dessous des 50. Oui. Et donc vraiment, je pense que l'enjeu, c'est pas tellement la vitesse que de réussir à sanctionner, comme vous l'avez dit, Edouard, les mauvais comportements. Et ça, automatiquement,
en même temps, avec ton vélo, si tu roules à gauche...
Vous pouvez pas dire... Enfin, il y a une chose que... c'est quoi qui vous fait dire que c'est mieux comme ça?
Ce qui veut dire, c'est qu'il y a d'autres comportements qui ne sont jamais sanctionnés. Par exemple, le téléphone au volant, la conduite sous stupéfiant.
Je redis juste une chose peut-être, c'est que c'est même frustrant pour le bonhomme qui a une bonne voiture, il fait nuit, on lui dit t'es bloqué à 130, etc. Et donc il est frustré, il est agacé, alors qu'on lui dirait vas-y, fais-toi plaisir, là il n'y a personne, 150, 180, comme on a
dit.
Il serait d'autant plus vigilant en ville. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant.
J'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe que j'embrasse, qui nous a envoyé un message et qui dit s'il y avait que des radars tronçons, il n'y aurait plus d'excès de vitesse, trois petits points. Mais l'État n'empocherait pas 2 milliards et la vitesse n'est pas la cause, mais un facteur aggravant. La cause est la formation, mauvais respect, le respect d'autrui, l'alcool et la drogue.
Édouard, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Merci,
je vous souhaite une bonne journée. On va écouter Christine qui est chauffeur routier. Je ne sais pas si vous êtes sur la route. Bonjour Christine.
Non, je suis pas. Bonjour.
Bonjour Christine.
Je suis pas sur la route, je suis chez moi puisque c'est le 1er mai.
Tant mieux, profitez. Alors, vous vouliez justement nous faire part de votre expérience.
Oui. En fait, moi, quand on me dit que les autoroutes en France sont bien entretenues, je vous dis que c'est faux.
Mmh.
C'est complètement faux. Et je suis d'accord avec Joël, c'est rare. Donc il faut le souligner.
C'est le premier mec, Christine.
Vous êtes payé double, Christine.
Je suis d'accord avec votre chroniqueur.
Antoine.
Oui. Et franchement, vous allez en Allemagne, les gens, ils savent se servir de leur voiture. En fait, c'est ça le problème en France.
Exactement.
C'est que les gens ne savent pas servir de leur voiture.
Oui. Mais parce qu'on les a castrés, en fait, au volant.
C'est vrai qu'à certains horaires, certains tronçons sont limités en vitesse. Mais les gens savent se servir.
Et les Allemands, d'ailleurs, ils pilent. Dès qu'ils arrivent au panneau, c'était illimité. Il y a le panneau 130 ou 120, je ne sais plus quelle est leur limitation. Ils pilent littéralement pour se mettre à la vitesse
au panneau. En France, on ne fait pas confiance aux citoyens,
exactement,
d'une manière générale. Non. En France, on pense que l'État, c'est papa et maman, que l'enfant, le citoyen, c'est un enfant à qui il faut chaque fois rappeler les règles, lui dire comment se comporter. L'Allemagne, l'approche allemande est différente. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Allemands vont respecter le quand ils sont piétons, vont respecter le feu rouge, alors que
Vous voyez, dans
nos villes, personne ne respecte. Les cyclistes respectent jamais le feu. Les piétons ne respectent plus rien. Oui, parce qu'en fait, on est quand même, comme on est dans un état nounou, on attend en fait finalement la sanction. Et si on n'a pas la sanction, si on n'est pas puni, on se dit on peut, comme un enfant, transgresser.
Non, mais en France,
c'est une mentalité qu'on a installée en France.
Les Allemands, quand ils sont en Allemagne, ils respectent tout. Mais quand ils sont en France, ils ne respectent rien du tout. En fait.
Ils se mettent au diapason.
C'est vrai.
Ça s'appelle l'assimilation.
Christine.
Ça marche que dans ce sens-là. Moi.
Christine, vous-même, vous arrivez à, en tant que chauffeur routier, en roulant beaucoup, à bien respecter les limitations, à ne pas vous faire avoir par les radars, je sais bien.
Le camion est limité à 88.
Oui, c'est vrai aussi, vous avez raison. Et en tant qu'automobiliste, quand vous laissez le camion,
Après, comme j'ai une grosse voiture, j'ai un peu du mal à la lancer, quoi. Donc.
Et puis dans le Var, on n'est pas gâté avec les radars, hein, Christine.
Ah non, parce que là, moi, j'en ai 350 autour de moi.
C'est ça, exactement.
Mais il y a des endroits où c'est pas dangereux, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est juste des
pompes à fric.
On peut piquer du pognon, quoi.
C'est un peu le problème, c'est que si on mettait vraiment les radars là où il y a des morts réguliers ou des tronçons sont compliqués. Effectivement, ce serait efficace. Mais là, on le voit, il se planque, t'as une baisse de vitesse, tu passes de 130 à 110, comme par hasard, t'as le radar qui est juste là, puis t'en as un autre derrière. Enfin, c'est vraiment, effectivement, fait pour remplir les caisses de l'État. Et vu qu'elles sont vides, 2 milliards, je peux t'annoncer que l'année prochaine, on commentera que c'est à 2 milliards 5 ou 3 milliards les recettes.
Et qu'on aura encore installé des radars. Quoi,
en fait. Et qu'on aura encore installé des radars.
C'est une rente, hein. Ils changent les emplacements, et au bout d'un moment, on ne sait même plus à quelle vitesse on doit rouler, en fait.
Mais on a tous nos smartphones maintenant avec le bon Waze. GPS, Waze qui sonne, etc. Moi, franchement, radar automatique, j'ai dû me faire prendre une ou deux fois. J'ai eu mon permis à 18 ans, j'en ai 35, parce qu'en fait, j'ai toujours le GPS allumé.
Mais tu sais ce que tu dis, c'est à moitié vrai. Moi, la fois où je me suis fait attraper à une très grande vitesse.
Il n'y a pas de tolérance. Hein. Vous considérez qu'il y a une tolérance de 5 km/h.
Ouais.
Ah ouais. Il n'y a pas de tolérance.
Non, c'est le radar qui est tolérant. En fait, sinon, il pêche tout le monde.
Il n'y a pas de tolérance. Il y a zéro en France.
Si. Il y a 5 km, si je pense.
Il y a
5 km.
Non, il n'y a pas de 5
km. C'est rabattu. C'est vitesse contrôlée, rabattue.
Pourquoi vous dites que c'est faux? Expliquez-nous.
C'est faux. Dans une zone à 80, si vous êtes pris à 81, vitesse relevée, 81, vitesse retenue, 81.
Non,
il y a 5 km.
Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance.
Non,
vous considérez qu'il y a une tolérance parce qu'il y a une.
On a tous eu un PV. Hein.
Éventuellement du radar. Mais si c'est une voiture radar, ça sera.
Ah oui.
Vitesse retenue, 81.
Ah oui, une voiture radar.
Verbalisée, 81.
Ah oui, une voiture
y a
radar.
Pas de tolérance en France.
On parle des radars automatiques.
Mais même les radars automatiques, la vitesse retenue.
Je tiens à préciser ce qu'Antoine disait, où au fond, la super sécurité, c'est d'avoir ces applications qui permettent de détecter les radars. C'est à moitié vrai, parce qu'il en faut. Moi, je me suis fait arrêter une fois. Et au-dessus, il se dit mais je comprends pas. J'ai mon application qui détecte en fait les radars. Et du coup, le gendarme me dit bah vous savez, il en faut un. Et c'est celui qui a. Il y a toujours un premier qui appuie pour nous signaler.
Et t'as pensé à appuyer,
Christine. Ah oui, j'ai appuyé, mais je me suis fait gauler. Donc il m'a dit, on en chope toujours un. Christine. Mais celui-là, quand on le chope, il est à grande vitesse.
Christine, je vous remercie d'avoir été avec nous. Attends, je voudrais que Eric, notre caméraman, vienne nous voir.
T'es sûr que c'est raisonnable?
Mais oui, parce que lui aussi, il roule la nuit pour venir.
Il prend l'autoroute A4, il vient de Seine-et-Marne.
Il vient de Seine-et-Marne, il prend l'autoroute A4, et tout à l'heure. Je regarde, je vérifie que c'est toi, t'as ton badge, oui, c'est toi. Donc, vas-y, raconte justement la sortie de l'autoroute et la nationale.
Bah, sur la sortie A4 pour aller en Seine-et-Marne.
Mais il est caméraman,
La sortie 14. On passe de 130, 110, 90, 70 en l'espace de 300 mètres. Et généralement, le radar, quand ils le mettent, il est juste derrière le panneau 70. On ne le voit pas.
J'imagine le gendarme caché derrière le panneau.
Tu t'es fait gauler?
Une seule fois sur le 90 à 91. Mais sinon, sur le 70, il y en a plein qui se font avoir. Il y en a moins maintenant. Et comme il y a eu un accident mortel il y a quelques années, en fait, je pense que... Le radar est là assez souvent. Et
donc voilà. Tu passes de combien à combien sur 200 mètres, vas-y.
Sur 200 mètres, on est à 110, 90, 70.
Je vais raconter
en entrant, en sortant de l'autoroute à 130. Donc en fait,
donc t'es sûr de te faire choper quoi.
Il y avait un commissaire.
Il reste un radar pour choper.
Il y avait un nouveau commissaire qui avait été nommé à l'époque à Mulhouse. Et le commissaire divisionnaire était très en retard. Et sur un tronçon, on savait qu'il y avait tout le temps des radars. Et le commissaire divisionnaire qui était avec son chauffeur avait passé fort et il s'est fait flasher. Et donc, il revient au commissariat, il dit bon, vous avez rayé le
nom.
Non, le disque en fait pour dire que c'est pas parce que tu peux pas enlever les noms quand c'est automatique, c'est enregistré automatiquement. Donc il dit vous avez bien pensé à raturer à rayer le disque. Et le commissaire fait si il fallait parce qu'en fait lui il s'est fait gauler parce que justement il avait refusé. Bon, sa carrière il était un peu plus compliqué derrière, mais même lui il s'est fait choper.
Ah, il fut un temps pour faire sauter les PV.
C'est fini. C'est automatique. C'est
longtemps. Attends, on a encore une anecdote.
En fait, dès que tu lui donnes le micro, ça y est, c'est un bouffon le micro, Eric.
Non, juste rajouter une chose. La vitesse réelle sur la voiture, sur le compteur, c'est une vitesse relative. C'est pas la vitesse réelle.
Bien sûr.
Déjà,
en général, c'est au-dessus. C'est un peu.
Et deuxièmement, les nouvelles voitures maintenant, elles affichent en temps réel la vitesse qu'il y a sur la route, 80, 110 ou 50 ou autre. Donc si on se fait gouler, c'est que
c'est
vraiment
que les deux bien.
Merci,
merci
Eric.
Merci. Un séjour. Bon retour chez toi, Eric. Nicolas, bonjour Nicolas.
Bonjour
bienvenue Nicolas, chauffeur routier vous aussi dans la Nièvre.
Oui, c'est ça.
Alors comment avez-vous réagi à l'annonce de ces recettes records des radars?
Il n'y a rien d'étonnant. On sait que c'est un racket. Les radars, c'est un racket. Alors, par contre, je voulais revenir sur les propos de Christine. Elle a raison quand elle dit qu'il n'y a pas de tolérance de 5 km/h. C'est juste qu'en général, les compteurs de voitures, la vitesse affichée est moins élevée que la vitesse réelle.
Ouais,
ce qui fait que quand on se fait prendre à 86, enfin, qu'on pense être à 86, on est déjà à 90, en fait. Et vous pouvez vérifier avec une application de Google Maps, pour pas la citer. Vous vous mettez à 80, vous verrez que en vrai, vous roulez à 78, 77.
Les constructeurs automobiles sont complices, donc, pour qu'on se fasse avoir.
Moi, j'ai constaté, effectivement, si tu penses que tu roules à 130, en fait, tu roules à 125 ou 127.
T'as quand même des revendeurs de bagnoles, des garagistes qui, lorsqu'ils mettent des plaques sur leur voiture, inversent un chiffre. C'est-à-dire que sur ta plaque, au lieu de marquer BS, tu marques SB. Ouais. Ce qui fait que quand tu te fais flasher, tu ne reçois jamais le PV. Ouais. C'est très courant chez les garagistes.
C'est frauduleux, voilà.
Oui, mais c'est très courant chez les garagistes.
Oui, mais c'est tentant.
Ouais, par contre, c'est tentant, mais la sanction, elle est lourde. Hein.
Et Nicolas, alors, je mets de côté le chauffeur routier que vous êtes, simplement pour m'adresser à l'automobiliste lambda. Vous avez tous vos points, ça va?
Non, il m'en manque.
Combien perdu en camion ou en voiture?
Pour l'instant, il m'en manque 6.
À moitié.
J'ai eu un retrait de permis avec plein de petits excès de vitesse pris en camion ou en voiture. D'ailleurs, pour moi, c'est un scandale parce que un médecin qui fait une erreur, enfin, faut qu'il fasse une grosse erreur pour qu'on lui retire le droit d'exercer. Nous, juste quelques petites erreurs et on peut ne plus avoir le droit de travailler.
C'est vrai.
Nicolas, ce qui va être intéressant, c'est que depuis le début de cette année 2024, tu me dis si je me trompe, normalement les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés, mais on continuera.
Par un retrait de points, ils sont sanctionnés par une amende.
Voilà, mais on continuera d'avoir l'amende. Donc on va voir si psychologiquement, peut-être qu'il y aura plus de petits excès. Alors,
souviens-toi que le mois dernier, ça a augmenté d'ailleurs, et les associations disaient que c'est à cause de ça, qu'on avait envoyé un mauvais signal de relâchement. Et il faut confirmer sur plusieurs mois, mais peut-être effectivement.
Ouais, alors merci. Je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je suis désolé, les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment.
C'est vrai aussi.
Se cacher. On et 90 euros, même si t'as plus peur de perdre un point, t'as pas envie de payer 90 euros.
Ça, c'est d'accord, c'est beaucoup.
C'est pas faux. Nicolas, merci d'être, d'avoir été avec nous. Bon 1er mai, Nicolas.
Eh ben,
c'est
beaucoup moins cher en Allemagne, les gars.
Salut Nicolas. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux. 2 milliards d'euros récoltés par les radars. Est-ce que vous assimilez ça à du racket? C'est un oui à 82,8%.
Tu sais combien est l'amende en Allemagne?
17,9%.
En Allemagne, pour un excès de vitesse de moins de 10 km/h en ville, c'est entre 15 et 30 euros. Et, en ville, pardon, entre 10 et 20 euros. Et sur autoroute, entre 15 et 30 euros. Pour un excès de moins de 10 km/h. Et quand tu es pour un excès entre 11 et 15, c'est 50 euros en ville et 40 euros hors agglomération.
C'est moins cher que chez nous.
Ah, c'est beaucoup moins cher.
Ah ben nous, on se fait plomber de toute façon à chaque fois.
Le prix, il est graduel.
Après, il y a les exemples des pays du Nord. Je crois que c'est en Finlande où ton amende est fonction de ton salaire. Et donc là, effectivement, oui, ça peut être un peu plus intéressant.
Moi, je suis pas d'accord, ça.
Je trouve que
pour ça, parce que celui qui fraude le fisc toute l'année, il va payer moins et tu récompenses. Non,
je suis pas con avec sa Mercedes qui va se prendre 90 euros.
C'est des magots.
En revanche, celui qui gagne.
Tu serais pas un peu zémorien, toi?
Mais ça n'a rien à voir.
La démagogie, en parlait.
Celui qui gagne 90 euros, qui gagne 1000 euros et qui prend 90 euros, ça a un impact plus fort sur lui. Donc, moi, je réfléchirai à ça.
Dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules, sera le GG. Cette image, j'ai vu Mathilde Panot et Rima Hassan convoqués. Est-ce que c'est la liberté d'expression qui est bafouée? Oui pour enfin. Joël et Olivier, non pour Stéphane et Antoine. Et vous venez en parler au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Ensuite, vous pourrez débattre avec Estelle Denis, puisqu'elle est là, Estelle aussi en direct, en ce 1er mai. Aujourd'hui, les grandes gueules, Joël Dagosséry, Stéphane Manigold et Antoine Dierce. On va parler liberté d'expression.
RMC.
GG, 7 et match.
Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, et Rima Hassan, la candidate France Insoumise aux élections européennes, se sont retrouvées convoquées par la police judiciaire hier dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. Ça, c'est dans le cadre de propos, de communiqués, publiés, tenus dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Rima Hassan a pris la parole à sa sortie des locaux de la police judiciaire, voilà ce qu'elle disait.
Ça s'est très très bien passé. J'ai été questionnée sur notamment l'interview du média Le Crayon qui n'a pas été mise à disposition des journalistes du grand public. J'ai été simplement questionnée sur en fait le contenu de cette interview que les enquêteurs ont pu quand même visionner et récupérer en totalité. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. Et puis je veux aussi saluer l'accueil des enquêteurs qui ont été particulièrement gentils.
Voilà, les enquêteurs ont été particulièrement gentils, j'ai pu m'expliquer. Sauf qu'elle s'exprimait lors d'un rassemblement, Rima Hassan, rassemblement pour dénoncer une atteinte à la liberté d'expression, rassemblement contre la criminalisation des voix. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit, mais enfin, dans quelle démocratie on utilise des méthodes judiciaires pour museler les militants politiques ou les militants associatifs? Alors, est-ce qu'effectivement... On touche là aux limites de la liberté d'expression. Est-ce qu'elle est bafouée? Est-ce qu'elle est menacée? 32-16. Une équipe dit oui, on bafoue la liberté d'expression. C'est Joël et Olivier. Une équipe dit non, c'est Stéphane et Antoine. Vous venez prendre position, ma chère Joël. On te donne les 60 secondes. Bon.
De manière générale, je trouve que la France a un affaissement des valeurs, notamment les trois valeurs qui font notre devise. qui sont liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est la première valeur et je trouve que ce gouvernement en particulier attaque grandement cette liberté. Et je crois vraiment qu'on doit s'entraîner à l'exercer. Et donc moi je ne partage en rien les positions de LFI. Néanmoins, je trouve qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et sur cette affaire, notamment palestinienne, israélo-palestinienne, on a eu des interdictions de manifestation. On a des députés ou des représentants politiques qui sont traduits devant la justice. On a des suppressions de subventions. J'ai entendu Valérie Pécresse qui souhaitait supprimer la subvention à Sciences Po. Ça commence à suffire. Je crois qu'on doit vraiment s'entraîner. Le « je suis Charlie », c'est pas « je suis Charlie » avec juste les choses qui me plaisent bien. On doit être « je suis Charlie » dans tout, en fait, dans tout. Parce que c'est comme ça qu'on va aussi empêcher les fous, les dingues, de nous dire « t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ci ». Et donc, on ne doit pas aller dans ce sens et leur donner le bâton pour se faire battre. Désolée, j'ai un petit peu dépassé.
Tu as été très bonne, Joël. Tu as été très, très bonne.
Moi, je ne sais pas si... Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté. En revanche, la liberté, elle est encadrée et elle s'arrête là où celle des autres commence. Et lorsque tu es dans la diffamation et l'injure, l'incitation à la haine, l'apologie des crimes... l'ordre public, le trouble à l'ordre public, quand tu incites le trouble à l'ordre public, Sciences Po, quand le droit et le respect à la vie privée n'est pas respecté et que tu tiens des propos tels qu'elle tient, qui sont clairement antisémites, qui appellent à la destruction de l'État d'Israël. Il ne peut y avoir qu'un État. Ce sont ses propos. Il ne peut y avoir qu'un seul État entre la Palestine et Israël. Voilà les propos que tient Rima Hassan. Mais moi, je suis désolé. Oui, je suis pour la liberté. Oui, je suis pour le débat. Mais je ne suis pas pour l'incitation à la haine. Je ne suis pas pour les infractions que Rima régulièrement commet, comme la France Insoumise, comme Mathilde Panot, comme Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre l'expression de Benjamin Griveaux. Tous ces gens-là, aujourd'hui... Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont dans la diffamation, l'appel à la haine, perturbent l'ordre public. Sciences Po est là, est l'exemple flagrant. Et moi, je suis désolé. Bah oui, ce sont des justiciables comme les autres. Et si Rima Hassan avait des envies, puisque elle est palestinienne, d'origine palestinienne, si elle avait des envies de justice, eh bien, elle pourrait peut-être, par exemple, faire la promotion de l'égalité des sexes, lancer, par exemple, des campagnes de sensibilisation sur le droit de la femme avec la vie politique, économique et l'UN Women. Elle pourrait, par exemple, bloquer Sciences Po pour que l'abolition de la peine de mort soit proclamée en Palestine. Elle pourrait, par exemple, être pour l'éducation et l'emploi des femmes en Palestine. Elle pourrait, par exemple, être pour le droit des prisonniers en Palestine. Et elle pourrait, par exemple, puisqu'elle se plaint de la liberté d'expression en France, elle pourrait, par exemple, s'insurger contre l'absence de liberté d'expression en Palestine, en soutenant les journalistes, d'accord, en collaborant Monsieur avec leur protection. Ouais. Moi, je suis désolé, ces gens qui viennent nous donner des leçons en France et nous expliquent que la France, on bâillonne, c'est le bagne, c'est machin, eh ben, sais quoi, si t'es pas contente, va défendre ses droits là-bas.
Monsieur Manigold, la question n'est pas savoir si Rima Hassan ou Mathilde Panot ont raison ou tort dans leurs propos. La question est de savoir si elles ont le droit de le dire. C'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de permettre à celui qui n'est pas d'accord avec toi de s'exprimer. Et ensuite, tu en débats. La liberté d'expression, c'est la valeur la plus importante dans une démocratie. Pour moi, ça, elle passe avant toutes les autres. Et Rima Hassan, Mathilde Panot, on peut être en fort désaccord avec ce qu'elles racontent, et ici même, on en a débattu, mais il faut qu'elles aient le droit de le dire. Pardon, on a le droit de débattre du conflit israélo-palestinien sans faire appel à des policiers ou à des juges pour nous dire ce qu'on a le droit à pas dire. Parce que c'est très dangereux. Parce qu'un jour, ça se retournera contre toi. C'est pour ça qu'il faut défendre la liberté d'expression. Parce qu'un jour, c'est toi qui seras convoqué dans un commissariat parce qu'on aura dit, attendez, monsieur Manigold, sur ce sujet-là, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. C'est une dérive très inquiétante, qui est d'ailleurs pas uniquement liée à Panot et Rima Hassan. Je trouve que les médias sont trop contrôlés également, alors que c'est le Far West sur les réseaux sociaux. Les médias sont toujours à la merci d'un signalement de telle ou telle association, de tel ou tel individu, et donc à la merci d'une sanction ensuite qui peut être une sanction judiciaire ou une sanction financière. Moi, je pense qu'il faut laisser plus de liberté aux gens de s'exprimer, de débattre. Et bien sûr, il y a des lois. L'antisémitisme, c'est condamné par la loi. Donc, il n'y a pas de débat. On ne va pas faire un débat sur l'antisémitisme ou le racisme. En revanche, on a le droit de débattre du conflit israélo-palestinien. On a le droit de débattre de ce qui se passe à Gaza dans le cadre de la loi.
Bien sûr.
Mais Olivier, quand
et on a le droit, pardon, à Sciences Po de défendre la cause palestinienne à condition de ne pas bloquer, hein, à condition de ne pas bloquer. Mais pardon, moi j'étais en fac il y a 30 ans, il y avait déjà des kéfiers palestiniens dans les AG et certains jeunes se prenaient pour des Palestiniens. C'était du temps de l'intifada à l'époque. Bon, mais alors après, s'il y avait blocage, Olivier, c'est normal d'envoyer des CRS. Mais bon, on a droit d'être excité, exalté, on a droit de penser faux aussi. C'est ça la liberté d'expression.
Est-ce que tu penses vraiment au fond de toi-même que la liberté d'expression est menacée? Elle est pas menacée aujourd'hui.
On envoie un message.
Aujourd'hui, clairement, il va rien se passer. C'est-à-dire qu'ils ont été entendus dans le cadre d'une procédure, parce qu'il y a eu un dépôt de plainte.
Donc c'est une perte de temps, alors.
Je pense qu'en réalité, sans mauvais jeu de mots, on est tombé dans le panneau. C'est-à-dire que...
C'est pas elles qui ont été de leur plein gré.
Mais je pense que ceux qui ont déposé plainte, en pensant bien faire, finalement, ont donné un énorme porte-voix, immense. Mais donc, la question, c'est est-ce que la liberté d'expression est bafouée? Non, la liberté d'expression n'est pas bafouée. Ils ont pu faire un rassemblement devant, en disant, regardez comme on est des victimes, etc. Je pense que précisément, dans le cas de la LFI, ils parviennent encore une fois à se victimiser, alors qu'ils ont des propos qui, d'après moi, devraient être regardés par la justice. Mais là, ils arrivent à dire « Eh oh, regardez, nous sommes les porte-parole de la liberté et tout ». Ben, pas du tout. Ils vont encore faire de la politique là-dessus.
Tu sais très bien comment les images fonctionnent. Tu sais très bien aussi même comment la justice fonctionne. Tu es coupable, présumé coupable, même si on parle des innocents, à partir du moment où on te colle une étiquette de... Tu es convoqué dans tel commissariat ou devant tel juge. Donc oui, peut-être qu'elles ont fait un mini meeting devant comme ça, mais peu importe. Nous, ce qu'on reçoit, nous qui sommes attachés à la liberté, c'est quand tu as défendu telle cause, t'as pris la parole sur cette cause, tu te retrouves convoqué devant un juge. Et ça, c'est pas acceptable.
Est-ce qu'on peut deux secondes parler de ces propos? Rima Assad, le 5 janvier 2024. Il n'y aura pas deux États. Peut-être qu'il faut que je l'écrive en arabe, en français et en anglais pour que ça rentre. Écoute, il n'y aura pas deux États. Ensuite, elle dit, on veut libérer tous les Palestiniens. Tous les Palestiniens, ceux des deux camps, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem, ceux de la Cisjordanie, ceux d'Israël et ceux de la diaspora.
Mais
il n'y aura pas de solution à deux États. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de solution à deux États, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu détruis un État et qu'il n'y aura qu'un seul État, c'est l'État palestinien? Est-ce que la liberté d'expression, c'est ça?
Tu peux dire qu'il y a un seul État où tout le monde vit ensemble dans le même État. Ça peut être ça aussi.
Oui, enfin, seul État. Toi, grand démocrate, je veux bien te croire, mais venant de sa bouche, jamais la vie. Elle est très claire dans ses propos.
Tu te mets en face d'elle et tu démontes ses arguments.
Exactement.
C'est tellement plus intéressant.
Mais
finir dans un. Je pense qu'elle
est pas venir. À mon avis,
il est pour essayer de l'inviter. Elle veut pas venir. Mais je préfère ça plutôt que dans sa commissariat. Je pense que les policiers aujourd'hui ont autre chose à faire. Je préfère qu'ils s'occupent des meurtriers du petit Matisse et policiers plutôt que de convoquer, Madame Panot et Madame Assad. Parce que comme le dit Antoine, on sait très bien que ça débouchera sur rien. Donc une perte de temps. C'est-à-dire qu'il y a des policiers aujourd'hui qui ont perdu leur temps à accueillir Madame Panot et Madame Rima Assad.
Je crois que tu te rends pas compte, en fait, de tout le climat. Là, on parle de israélo-palestinien. Mais on a eu, sous la mandature de Monsieur Macron, un nombre record de dissolutions. De dissolution d'organisations diverses.
Justement,
on a une tendance aujourd'hui en France à ne pas vouloir entendre ce qui nous gêne. Je suis désolée, ça n'est plus la liberté. C'est comme si on avait une parole gouvernementale. Et si tu ne respectes pas ça, on te coupe tes subventions, on te traduit en justice. Ça va dire, on interdit ta manifestation. Ça suffit quand même.
Le pays qui s'appelle le Royaume-Uni, t'as une liberté d'expression, la France à côté, on est petits joueurs. Londres, en 2017, était reconnue comme la ville la moins antisémite du monde. Oui. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus où l'antisémitisme est le plus fort dans le monde.
T'imagines?
Ça s'appelle la liberté d'expression. Les gens raconter tout et n'importe quoi,
les gens ont
appeler à la haine en toute liberté, appeler à détruire l'autre. Est-ce que c'est ma conception de la liberté? Non, ma conception de la liberté, c'est
tous
pas d'appeler.
Tous ces londoniens roux qui sont devenus antisémites.
C'est pas d'appeler à détruire Joël Dalgosséry. C'est pas ça ma conception de la liberté.
Alors, puisque nous avons lancé la discussion.
Elle n'a pas appelé à détruire Israël. C'est pas vrai.
Venez continuer de discuter avec nous au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.